France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Agnès Ducharme, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes hydrologue et climatologue, directrice de recherche au CNRS, et je vous ai entendu en juin dernier au colloque de l'Union rationaliste faire une communication passionnante sur la politique de l'eau, en partageant vos préoccupations et vos colères sur les questions écologiques et l'urgence climatique. Vous êtes non seulement une très bonne scientifique, mais aussi une citoyenne engagée dans le mouvement Les Scientifiques en Rébellion. Vous avez également participé, Agnès Ducharme, au numéro 235 de Raison Présente sur l'eau et les hommes, en réfléchissant à la surexploitation des ressources en eau pour l'irrigation, en travaillant l'exemple des méga-bassines dans le Marais Poitevin, article très éclairant auquel je renvoie les auditeurs de France Culture. Je voudrais, Agnès Ducharme, que vous nous campiez un bref historique de ce qu'ont été les politiques de l'eau en France depuis, sinon 1969, du moins 1992, et des dangers de l'agriculture productiviste ou intensive sur les ressources en eau d'un pays comme la France.
Alors, je vais me permettre de remonter quand même au moins, de faire un petit aperçu sur les 30 Glorieuses quand même, parce que c'est le début d'une histoire intéressante. Donc, pendant les 30 Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, on a la science de l'eau, l'ingénierie de l'eau, qui sont au service de la reconstruction de la France, de la modernisation et aussi du développement de l'agriculture au service de nourrir la France. C'est le projet de l'après-guerre. Et donc, dans le domaine de l'eau, on a deux grands objectifs. D'abord, donc, la deuxième révolution agricole, on fait du remembrement, on mécanise, on intensifie l'agriculture. Et après avoir réussi à nourrir à nouveau la France, on développe la partie exportation au bénéfice de la balance commerciale française. En même temps, un autre objectif, c'est celui de la production électrique, et donc c'est la construction de barrages hydroélectriques et des centrales nucléaires par EDF. Et en même temps, d'un point de vue législatif, on crée en 1964, la loi sur l'eau, qui est vraiment une pierre angulaire du code de l'environnement actuel, qui met en place la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Il y en a 6 en France. Chaque bassin versant est associé à une agence de l'eau. Et la gestion est ciblée sur l'amélioration de la qualité de l'eau via l'assainissement notamment des eaux usées et la mise en place d'une taxe sur tous les usages de l'eau. Donc ça, c'est l'âge d'or, finalement. Il y a une amélioration finalement de l'ensemble du système eau, ingénierie, développement territorial. Ça commence à se gâter vers le premier choc pétrolier, 1973. Et là, plein de choses commencent à gripper. Moi, je dirais, j'ai appelé ça souvent la mondialisation heureuse et percutée par les limites planétaires. Et dans le domaine de l'eau, alors on a deux sociétés de traitement et de distribution de l'eau française qui existaient depuis longtemps, mais qui deviennent des géants mondiaux. C'est la Compagnie Générale des Eaux, qui devient Vivendi, qui maintenant s'appelle Veolia. Et de l'autre côté, Lyonnaise des Eaux, qui s'est ensuite appelée Suez et qui a été avalée, si vous vous en souvenez, par Veolia récemment. Du côté de l'agriculture, on pousse encore la production, les industries agroalimentaires et l'agrochimie se développent, dopent la balance commerciale française. Et par rapport à ce qui relève de l'eau, les ingénieurs publics du domaine de l'environnement, les scientifiques aussi, se mettent à documenter de plus en plus fréquemment les dommages du développement et de l'agriculture intensive, donc en termes de pollution, de sécheresse induite, d'inondation, et ça inspire de nouvelles lois, d'autant que en parallèle, les scientifiques documentent aussi l'émergence du changement climatique. Donc on a la loi sur l'eau de 1992 qui inscrit l'eau comme patrimoine commun de la nation et qui vise à une gestion équilibrée de l'eau entre les usages et ce qui est disponible naturellement. Et puis, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques en 2006, c'est une transposition d'une directive cadre européenne de 2000 qui cible le bon état écologique des cours d'eau. La cible était de l'atteindre en 2015 et on est loin du compte à l'heure actuelle. Cette loi de 2006 inscrivait aussi dans le marbre l'obligation d'adapter la gestion de l'eau au changement climatique. Et puis plus récemment, et je mettrai la frontière en 2015 au moment de l'accord de Paris, on est dans un moment que je trouve très étonnant, où au niveau de la décision des décideurs politiques, donc l'appareil politique, les hommes et les femmes politiques, ils remettent en cause les connaissances scientifiques et d'une manière qui est étonnante. Plus c'est gros, plus le mensonge est gros, plus la contre-vérité est grosse, plus ça passe. Alors, le changement climatique se manifeste clairement. On voit des canicules, des inondations, des sécheresses. Mais il y a parmi l'appareil politique des gens qui
nient encore.
Qui le nient, ouais. Et pour ceux qui le nient pas, de toute façon, ils ne font rien. Mmh. Et puis, on voit l'émergence de vérités alternatives sur tout. C'est l'époque des marchands de doutes. Un livre fameux de Horace Kess et Conway aux États-Unis en 2010. En parallèle, les financement de la recherche publique s'effondre, ceux pour l'innovation explosent, donc en fait c'est la recherche privée, et les pouvoirs publics, moi je trouve, stigmatisent de plus en plus les lois environnementales, et par ailleurs souvent ne les respectent pas. Et l'accord de Paris en est un exemple, puisque certes les émissions en gaz à effet de serre de la France diminuent un petit peu, mais pas assez. Voilà, et sur l'eau, on a une avalanche de textes, tous plus hypocrites et contradictoires les uns que les autres. Au dernier titre, la loi du plomb.
Voilà, je voulais
la loi d'urgence agricole, qui sont
alors,
très agaçants.
Pourquoi Agnès Ducharme, à l'ère de cette post-vérité en matière de gestion de l'eau, avec la loi du plomb et les décisions désastreuses du ministère d'Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire depuis septembre 2024, c'est toujours le ministère de l'Agriculture et, je crois, la FNSEA
tout à fait,
qui l'emporte sur les autres ministères, notamment celui de l'écologie, celui de la justice, sur les avis du GIEC, sur les avis des scientifiques, et vont toujours dans le sens de celle des gros irrigants.
Mais ça fait longtemps que le ministère de l'Agriculture gagne tous ses arbitrages face au ministère en charge de la gestion de l'eau. Et tous les contacts que j'ai pu avoir dans ce milieu-là le disent en off. Et autant c'était légitime pendant les 30 glorieuses de vouloir relancer la production alimentaire, autant depuis 50 ans, ça fait quand même 50 ans que c'est fini les 30 glorieuses. Les principaux problèmes à résoudre pour l'agriculture, à mon avis, ils sont ailleurs. C'est dit de manière répétée par les intéressés, c'est le revenu des agriculteurs et il est d'autant plus faible que les coûts d'exploitation sont élevés. Et les coûts d'exploitation, ça implique les intrants en engrais, en pesticides et l'eau de bonne qualité dont ils ont besoin. Donc là, il y a un lien évident. Et puis l'autre principal problème, c'est la dégradation de l'environnement par certaines pratiques agricoles. En termes de quantité d'eau, si on pompe trop d'eau pour l'irrigation, en termes de qualité de l'eau douce, en termes de réchauffement climatique, parce que 20% du changement climatique est associé, ça c'est le GIEC qui le documente, à notamment l'élevage. Et puis on peut citer aussi la baisse des stocks de carbone dans les sols, ce qui nuit au cycle du carbone et à l'atténuation du changement climatique. Donc le fait que le ministère de l'Agriculture gagne à chaque fois, comme autrefois l'Allemagne au foot, c'est plus du tout pertinent, il me semble. On entend souvent l'argument de la souveraineté alimentaire, en dévoyant un petit peu sa définition. Et pour moi, c'est pas valable, parce qu'à l'heure actuelle, la France est autosuffisante en termes de production alimentaire à 75% à peu près. Ce qui manque principalement, là où on est importateur, c'est les fruits et légumes. Donc certes, pour faire des fruits et légumes, il faut de l'eau, hein. Mais on pourrait utiliser l'eau qu'on utilise pour faire du maïs, pour faire du vin qui sert à l'exportation. Et du coup, mon analyse, moi, c'est que au niveau au-delà du seul ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, il y a une priorité avec Bercy, l'Élysée, aux productions qui sont destinées à l'export, donc le maïs, le vin, les industries agroalimentaires, mais aussi les engrais, les pesticides et l'eau minérale qu'on peut rajouter. Et ce choix, à mon avis, il est nuisible parce qu'il privilégie les plus gros acteurs du système agro-industriel au détriment des petits agriculteurs et de l'ensemble des Français. Parce que l'ensemble des Français, on ne répond pas aux problèmes de l'agriculture et de ce qu'ils peuvent acheter au supermarché. Et puis de leurs problèmes d'accès à l'eau. Voilà.
Oui, on stigmatise très clairement un système néolibéral.
Tout à fait.
Qui est aux manettes. Alors, Agnès Ducharme, quelles pourraient être les pistes pour parvenir à contrer cette politique agricole intensive, toxique pour la gestion de l'eau en France ?
Alors, je pourrais faire une longue liste de toutes les solutions qui sont sur la table. Et il y en a plein. Et c'est vrai en ce qui concerne une gestion de l'eau plus respectueuse de l'intérêt de tous les Français et aussi de la plupart des agriculteurs. C'est vrai aussi pour le changement climatique et son adaptation. Et je pense que les gens qui nous écoutent cette semaine seront sensibles aussi à cet aspect-là. Et les deux problèmes, changement climatique et gestion de l'eau, sont fortement liés. Pour moi, aucune des bonnes solutions n'est faite et c'est un problème politique, c'est un problème de choix, de décision par les élus et c'est pas dans les mains des scientifiques, malheureusement. Donc les décideurs politiques y verrouillent l'action de plein de manières, par des discours sans lendemain, des promesses qui se succèdent, des discours de l'impuissance, on ne peut rien faire, diminution des crédits, sur les actions qui seraient importantes, modification des lois, et puis des mensonges et des distorsions fortes de faits. J'aimerais revenir sur l'exemple de Madame Genevard quand elle discutait la loi d'urgence agricole.
Je vous en prie.
En mai, qui dit qu'on ne me dise pas qu'il manque de la ressource en eau quand il pleut 500 milliards de mètres cubes chaque année et que l'agriculture n'en prélève que 2 milliards. Convenez avec moi que c'est un prélèvement qui est quand même des plus raisonnables. Je ferme les guillemets. Il y a plein d'erreurs là-dedans. La première et la plus criante, c'est que l'agriculture à l'heure actuelle ne prélève pas 2 milliards mais 3,4 milliards, c'est-à-dire beaucoup plus. Ensuite, les 500 milliards de mètres cubes qui pleuvent chaque année sur notre pays et parfois aussi qui neigent, ça revient à un peu moins de 1 mètre d'eau sur chaque mètre carré du territoire. Et cette eau, elle alimente l'agriculture, elle alimente les forêts, c'est l'eau des pluies. Si on compare les prélèvements agricoles, ces fameux 3,4 milliards, mais qu'on les ramène aux mètres carrés qui sont irrigués en France, eh bien, on trouve que ça équivaut à 0,2 mètres par an. Ces 0,2 mètres par an, ce n'est pas à la pluie de 1 mètre qu'il faut les comparer. En fait, c'est aux quantités d'eau qui sont disponibles dans les rivières et dans les nappes. Et le plus simple à faire, c'est de comparer ça à la recharge des nappes phréatiques. C'est à peu près 0,1 mètre par an. Donc, en fait, dans les zones irriguées, l'agriculture prélève environ deux fois plus que la recharge naturelle des nappes. Du coup, on comprend que dans les zones fortement irriguées, les niveaux d'eau baissent, les niveaux des rivières baissent parce qu'elles sont alimentées par les nappes. Et en fait, cette agriculture irriguée intensive crée des sécheresses et c'est super embêtant.
Cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux et penser stockage qui est la solution qui est toujours mise sur la table, ça ne marche pas parce que si on veut stocker ce qui manque, je ne parle même pas de mégabassines.
D'accord.
Donc, pour rétablir l'équilibre par rapport ne serait-ce que la recharge des nappes de 0,1 mètre par an. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait stocker 0,1 mètre par an dans chaque mètre carré irrigué en France. Du coup, ça fait la moitié de ce qui est prélevé, c'est-à-dire 1,7 kilomètres cubes d'eau par an. Et ça, si on fait les petits calculs, je les ai faits avant de venir, ça revient à 170... Si on voulait le stocker sur des retenues de 10 mètres de profondeur, c'est le cas des retenues de substitution type Sainte-Soline, eh bien, il faudrait 170 kilomètres carrés de retenues de 10 mètres de profondeur pour stocker toute cette eau. Alors, on peut le compter en hectares. 17 000 hectares. Alors, Ça veut dire quoi pour quelqu'un qui n'est pas agriculteur? 17 000 hectares. Ça veut dire 250 exploitations agricoles de surface moyenne en France. Ça veut aussi dire, si on compte en Sainte-Soline, ça veut dire 170 000 Sainte-Soline. Voilà. Donc pour compenser le surplus actuel, sans intégrer le changement climatique de l'irrigation, il faut faire tout ça. Voilà pourquoi ces solutions de vouloir développer le stockage pour développer l'irrigation sont absurdes. Et ce qu'il faut faire, c'est réduire l'irrigation et la destiner aux productions agricoles qui sont importantes pour la sécurité alimentaire, c'est-à-dire pour produire l'alimentation des Français.
Mais tant que la FNSEA manipule le ministère de l'Agriculture, on ne pourra rien faire.
Eh bien, en tout cas, on peut essayer d'expliquer les faits d'une manière honnête et factuelle qui s'appuie sur des statistiques publiques, celles de l'État, que Madame Genevard ne peut pas ignorer.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission, sur vos colères tout à fait légitimes, sur votre effort scientifique pour démêler les intérêts de certains dans le réel, que nous allons clore cette émission. Agnès Ducharme, je vous remercie.
Moi aussi.
Je renvoie au numéro 235 de Raison présente sur l'eau et les hommes, dans lequel, Agnès Ducharme, vous nous avez instruit sur le marais poitevin et les problèmes de l'agriculture aujourd'hui. Je remercie à la technique Philippe Baudouin et Nicolas Leroulé. Je remercie sur France Culture pour le site Claire Poinsignon, Nathalie Comte à l'Union Rationaliste et je vous souhaite un bel été.